Voilà. Et bonjour, donc Pierre Serventon, bonjour.
Bonjour Odile.
Alors, ce n'est pas la première fois que vous venez sur notre antenne, puisque vous nous aviez déjà présenté votre livre « L'amour au féminin », c'est ça ?
L'amoureux du féminin.
L'amoureux du féminin, bien sûr.
Oui.
Et aujourd'hui, donc, vous sortez un deuxième livre, « La rose qui se déploie ».
Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai l'habitude de transmettre toutes les idées qui me paraissent bonnes à partager à travers un style romancé. Donc, dans le premier roman, c'était Stéphanie qui rencontrait un homme qui l'initiait au tantra. Donc, sur le deuxième roman, il s'est passé 7 ans entre cette première rencontre et puis le début de ce deuxième roman. Et là, Stéphanie a, pendant ces 7 années, pratiqué régulièrement au cours de stage. Sa vie s'est progressivement changée. Elle a commencé à prendre soin d'elle, prendre du temps avec elle. Ses stages lui ont montré l'importance de s'écouter, d'écouter ses ressentis, d'écouter son corps, de prendre soin de son corps. Et du coup, par rapport à toutes ces prises de conscience, elle a décidé de mettre au grand jour un rêve de petite fille qu'elle avait enfoui au fond d'elle. Ce rêve de petite fille, c'était un rêve d'aventure. Elle voulait partir, expérimenter la liberté sans contrainte. Donc cette femme d'entreprise qui avait au départ créé ce qu'on appelle le coworking, c'est-à-dire des espaces où elle louait des bureaux pour des gens qui voulaient travailler, mutualiser des espaces de travail. Progressivement, son entreprise avait grossi, elle s'était entourée de jeunes. Et là, elle décide de revendre son entreprise, tout simplement, de mettre son appartement en location et puis de s'acheter un petit van. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, ce rêve, je l'ai croisé chez pas mal de personnes. Envie de liberté, envie d'être dans l'instant présent. Parce qu'en fait, on est dans une société qui pourrait paraître anxiogène si on regarde un peu trop les médias traditionnels, qui pourrait paraître anxiogène parce qu'on est toujours dans la peur du lendemain. Et là, c'est le contre-pied, un peu idéal, c'est-à-dire que cette personne décide de larguer les amarres et de s'offrir, parce que c'est vraiment, avant tout, c'est une démarche où elle va s'offrir du temps avec elle. Et ça devient une chose très rare aujourd'hui, dans le sens où la vie s'accélère pour beaucoup de monde. Et je dirais que quand la vie s'accélère, c'est le moment de ralentir. Et c'est vrai que, évidemment, dans le premier et dans le deuxième roman, je parle de tantra. Donc tantra, c'est une philosophie qui nous vient d'Inde, mais c'est avant tout un art de vivre et un art où le déconditionnement, est à la base du cheminement. Et du coup, c'est pour ça que quand tout s'accélère, ralentir est essentiel. Prendre du temps avec soi, pour soi, est essentiel. Sans que ça devienne vraiment nombriliste, mais juste avoir ce temps disponible à l'instant présent, avoir le temps de regarder la beauté du monde. Je dirais que le tantra, c'est avant tout la voie du plaisir. Donc plaisir de goûter l'instant. D'être en toute honnêteté vis-à-vis de soi. Alors, c'est pas forcément pour cette fameuse Stéphanie, notre héroïne du premier roman et qui poursuit dans le deuxième. C'est pas forcément tous les jours facile ni simple, mais au cours de cette errance vagabonde, elle va faire des rencontres. Globalement, la trame, de ce deuxième roman.
Donc, on va suivre cette héroïne. On va retrouver, évidemment, des choses du tantra aussi, dans son épanouissement.
Oui.
Est-ce qu'on suit la trame du premier, finalement, aussi?
Oui, disons que c'est tous les fruits, justement, de cette découverte qu'est le tantra. Donc, comme je le disais précédemment, c'est un outil aussi une voie de déconditionnement. Donc évidemment, bah, tous les conditionnements tombent petit à petit pour arriver à cheminer vers un peu plus de liberté et surtout beaucoup plus d'authenticité sur ce qu'elle est réellement, elle, en tant que femme, et qu'elle soit au plus proche de ses envies, au plus proche de ses désirs. Et du coup, bah, évidemment, ça amène vers plus de liberté. Alors, bon, c'est vrai que ça se fait jamais, je dirais, dans une fluidité totale, ni dans une facilité totale. Mais disons que c'est surtout les rencontres qui vont beaucoup l'amener à des prises de conscience fortes. Et en particulier, dans ce deuxième roman, je voulais faire participer des gens. Parce que le tantra, c'est aussi, on ne peut pas faire du tantra seul, soit avec soi-même. Ce n'est pas comme le yoga ou la méditation, où là, on peut pratiquer en étant seul avec soi-même. Là, il y a besoin de se confronter aux autres, d'être en interaction avec les autres pour pouvoir se connaître davantage. Et là, au cours de ces pérégrinations, une ancienne amie, une connexion, comme on dit, les circonstances font qu'elle va être... à même de rencontrer la fameuse Mira. Alors Mira, c'est une amie personnelle. C'est elle qui m'a fait la gentillesse de faire la préface de ce livre. Et du coup, comme je le disais, il va y avoir plusieurs personnes qui interviennent dans ce livre, dont Mira. Et Mira, c'est une personne que je tiens vraiment dans mon cœur parce que c'est une femme déjà, d'un certain âge, mais qui, depuis des années, propose aux femmes de retrouver toute leur puissance, toute leur créativité, toute leur souveraineté, je dirais, à partir de leur matrice. Donc, dans le tantra, on appelle ça une yoni, donc c'est toute la partie génitale de la femme. Et là, elle propose des pratiques. Alors, elle propose souvent un ancrage, parce que la reliance à la terre et au ciel, enfin, cet ancrage pour elle est primordial. Mais il y a aussi, dans ses pratiques, l'utilisation d'œufs de yoni. Donc Mira, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se répand pas mal dans le milieu du tantra et dans le milieu des rencontres entre femmes. Mais disons que les œufs de yoni, les œufs de yoni de Mira, ils sont vraiment particuliers parce que c'est une femme qui est, une artisan... qui est perfectionniste, donc elle a des œufs qu'elle a choisi la taille, la dimension, les pierres, les artisans qui les fabriquent, c'est les sols qui sont percés de haut en bas, il y a toute une pratique vraiment, très subtile que Mira propose donc à de nombreuses femmes. Et c'est vraiment un chemin pour que les femmes puissent à nouveau, à partir de leur énergie vitale qui se loge évidemment, ce qu'on appelle le premier chakra, donc les organes génitaux, cette zone-là, retrouver une forme de... À la fois, ça peut être une voie de guérison, mais c'est surtout retrouver, je dirais, le contact avec cette partie-là. Chez beaucoup de femmes, ça peut s'être endormi, ça peut s'être mis en veille par manque de présence, par manque d'attention. Et Mira propose tout un cheminement pour retrouver justement toute cette vitalité à partir de cet endroit-là. Donc pour moi, c'était un message qui était vraiment important. À transmettre, parce que je pense que c'est essentiel aujourd'hui, c'est que plus les femmes seront dans cette puissance-là, dans cette créativité-là, plus elles pourront le rentrer à partir de cet endroit-là en interaction avec les hommes, et que ce sera bénéfice et pour les femmes et pour les hommes.
Est-ce que vous souhaitez lire un extrait de votre livre « La rose qui se déploie »
Alors, tu me prends un peu au dépourvu, Odile. J'avais pas vraiment prévu de le faire, donc ça risque d'être un peu compliqué.
Ouais.
Mais ce que je peux dire, par contre, c'est qu'il y a donc plusieurs personnes qui interviennent dans ce livre. Donc, il y a la première personne qui intervient, c'est Blandine. Donc, Blandine, c'est une personne qui co-anime avec moi des stages de tantra. On a un site qui s'appelle absolu-du-6-tantra.fr. Et du coup, Blandine, en fait, on a commencé par se connaître en faisant des échanges. Alors, des échanges où on se massait, où justement, ce que j'aime dire, c'est qu'il n'y avait pas d'initiateur. C'était l'échange qui nous initiait mutuellement. Et peu à peu, Blandine, je dirais que son féminin dans l'art du toucher s'est révélé peu à peu à elle. Et ça nous a permis de vivre mutuellement des moments de grâce. Donc avec Blandine, on a eu cette chance et on continue à les vivre. Parce que, ben voilà, nous, on propose d'ailleurs notre prochain stage, ça va être sur l'art du toucher. Et l'art du toucher, c'est quelque chose qui peut être juste magnifique. On est dans du subtil, on est dans de la qualité de présence, on n'est absolument pas dans les techniques. Et ça, le tantra, c'est aussi une voie où on n'utilise aucune technique, mais plutôt une qualité d'être. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que, du coup, il n'y a pas, chacun a sa propre qualité d'être. Il n'y a pas d'injonction, il faut que, ou tu dois ci, ou tu dois là. Non, c'est juste à chacun d'entre nous de trouver sa propre qualité d'être. Et ça passe beaucoup par un lâcher prise, par une détente. Et c'est vrai que l'objectif numéro un du tantra, c'est se détendre dans chaque circonstance. Donc, il y a Blandine qui intervient, Mira qui intervient et qui ne va pas nous dévoiler ce qu'elle fait dans ses stages, parce que ça, c'est quelque chose qui reste très personnel par rapport à chaque personne qui y participe. Mais elle va, au cours d'un long passage qu'elle a eu la gentillesse d'écrire, nous décrire les effets que toutes ces pratiques produisent sur les femmes. Et ça, c'est vraiment un très, très beau passage. Ensuite, j'ai une autre amie, Anaïs, pareil, que j'avais croisée à un stage, et j'avais trouvé qu'elle avait une plume. Elle est plutôt dans l'écriture, je dirais, sensuelle, voire érotique. Et là, je lui ai demandé gentiment de m'écrire un passage du livre qu'elle a très bien adapté. Et voilà, ça, c'est, j'ai permis à Anaïs de pouvoir exprimer ce don, cette qualité qu'elle a. Ensuite, j'ai un ami, Christophe, qui travaille beaucoup, beaucoup avec les plantes. Et lui, il a une chose qui est incroyable, c'est qu'il rentre en contact avec l'âme des plantes. Alors moi, c'est pas quelque chose que je maîtrise forcément très bien, mais il est venu à la maison, on a participé ensemble à un atelier, il m'a fait rencontrer une plante, et c'est vrai que c'est juste quelque chose d'incroyable, parce que c'est quelque chose qui est très inhabituel pour moi, et qui doit l'être pour la plupart d'entre vous. Mais en tout cas, voilà, il y a un passage où il nous décrit toute cette démarche, où il va rencontrer l'âme de la plante, et le voyage que ça lui procure. Donc ça aussi, je pense que j'avais envie d'en parler parce que pour moi, le monde de la nature, c'est un monde qui est essentiel dans ma démarche. C'est-à-dire que c'est pour ça que ce qu'on propose, Blandine et moi, c'est du tantra en pleine nature. C'est-à-dire que la nature est toujours présente comme soutien dans notre démarche. Voilà. Et puis le dernier, c'est un homme pareil, qui est juste magnifique, Pierre, hein, donc un homonyme, et qui vit, lui, vraiment en pleine nature. Il vit au grand air quasiment toute la journée. Certains l'appellent le druide, mais c'est quelqu'un qui a une vraie connaissance des arbres, de tous les végétaux, et qui vit vraiment en symbiose avec eux, et qui connaît toutes les légendes, qui se rapproche aux arbres. Et du coup, je lui ai demandé lui aussi de me partager une partie de ses connaissances parce que voilà, la nature est pour moi un lien fort que j'ai toujours eu dans ma vie, et du coup c'était un sujet que je voulais aussi aborder dans ce livre.
Donc un sujet pour les amateurs de nature, de bien-être et de meilleure découverte de soi.
Oui, complètement, Odile. Et puis, voilà, comme je le disais tout au début en préambule, c'est que c'est vraiment le tantra, c'est la voie du plaisir. C'est-à-dire qu'on est là pour se faire du bien, on est là pour se détendre. Et c'est pour ça que c'est une voie, je dirais, de déconditionnement, parce qu'on a été conditionné sur il faut en baver pour y arriver, il faut souffrir pour y arriver, il faut que ça soit dur pour qu'on ait vraiment une satisfaction, qu'on arrive à quelque chose. Et ben là, on prend vraiment le contre-pied total. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un thème que j'aime, c'est-à-dire que moi, je me sens très, très proche des Amérindiens. Donc, c'est pour ça que ça fait depuis très, très longtemps que je vis dans la nature, bientôt 40 ans, dans un petit paradis au nord de Digne-les-Bains.
Prats, c'est ça?
Voilà,
c'est
Prats, dans la haute Bléone. Voilà, mm-hmm. Et je ne m'en lasse pas une seconde. La Bléone, la rivière, les forêts, les crêtes de montagne, enfin, toute cette nature à l'état quasiment pur qu'on peut trouver dans la Haute Bléone, me nourrit pleinement. Et je dis, voilà, regarder la beauté du monde, prendre le temps de l'observer et de faire un avec elle, c'est l'honorer. Et qu'il n'y a pas meilleure pratique, à mon sens, et c'est ce que je pratique tous les jours, d'honorer la beauté du monde en lui donnant de l'attention. Et en fait, cette attention, c'est de l'amour qu'on donne et c'est de l'amour qu'on reçoit. Et ça, ça peut être transposable aussi sur le plan des relations humaines. C'est-à-dire que si on donne de l'attention à celui qui est proche de nous, à l'être aimé éventuellement, ou même à des amis, je veux dire, c'est de l'amour que vous allez offrir aux autres et vous allez le recevoir aussi, je dirais, en retour. Donc voilà, c'est aussi un des messages, donc prendre le temps de jouir de la vie, ça c'est vraiment précieux, et la contemplation pour moi c'est vraiment ma pratique principale, et je dirais que dans la langue des oiseaux, contempler c'est ouvrir son temple, et il y a Patrick Burensteinas, un alchimiste qui en parle vraiment de très belle manière, et qui dit quand vous avez des problèmes, que vous cherchez des solutions, ça ne fonctionne jamais. Par contre, si vous avez des problèmes et qu'à un moment donné, vous mettez sur pause en disant « là, c'est bon, je prends du temps juste avec moi, juste pour regarder passer le temps, éventuellement les nuages passer dans le ciel », en fait, vous allez rentrer dans la contemplation. Et la contemplation, c'est ouvrir son temple. C'est-à-dire, c'est laisser votre intuition, votre âme, vous chuchoter à l'oreille. Et là, par rapport à tous les problèmes qui se présentaient précédemment, vous allez éventuellement avoir des solutions, mais ces solutions viendront de l'intérieur de vous, vous chuchoter à l'oreille, quelque chose qui va être complètement aligné avec vous-même. Donc voilà, c'est ça un petit peu le message, c'est ne cherchez pas à trouver des solutions quand vous en avez vraiment, tant que c'est pris dans une tension, au contraire, c'est plutôt dans la détente, c'est dans le rien faire, la tranquillité, que vous allez laisser voilà, votre propre intuition venir vous chuchoter à l'oreille.
Pierre Servanton, merci. Donc, ce livre, La rose qui se déploie, aux éditions Le Lys Bleu, on peut donc le commander.
Alors, ici, je dirais que vous pouvez le trouver évidemment à La Ruelle. La Ruelle a et le premier et le deuxième roman. Ils ont plusieurs exemplaires du deuxième roman, d'ailleurs. Voilà, je pense qu'à la presse, enfin voilà, tous les gens qui vendent des livres, vous pouvez le commander. Et puis après, vous allez le trouver sur le site de l'éditeur, le Lys Bleu, et puis sur le site de la FNAC. Enfin voilà, il est accessible, voilà, sur tous les sites de vente de livres en France.
Donc ça, c'est la partie vente de livres pour ce livre. Et sinon, vous faites des stages de tantra, vous faites aussi guide de montagne. Quelle est votre actualité?
Alors, mon actualité, c'est-à-dire que les accompagnements, comme j'ai pu le faire dans le passé, sont plutôt au repos en ce moment. J'accompagne des groupes justement sur mes séjours tantra, puisque comme je vous le disais, la nature fait partie aussi de notre démarche, que ça soit avec l'élément terre, c'est-à-dire les randonnées, ou l'élément eau, qu'on soit dans la montagne avec la rivière ou le torrent, qu'on soit au bord de la mer avec la mer. En fait, voilà, tout ça, toute cette pratique avec les éléments est très présente dans nos stages de tantra. Et puis voilà, j'ai une petite confidence, c'est que là, j'ai Compostelle qui m'appelle très très fort. Là, j'ai élevé ma fille pendant une vingtaine d'années et du coup, j'ai été remis dans une forme de sédentarité, moi qui avais eu l'habitude de beaucoup, beaucoup voyager à pied. Et là, j'ai vraiment, là, voilà, ça y est, j'ai des fourmis sous les pieds et du coup, ça me démange et je pense que pour le printemps prochain, je vais commencer par une petite errance de Compostelle, dont apparemment c'est un voyage qui se fait sur 2 mois et demi. Donc voilà, c'est un bon format pour reprendre un peu le goût à l'errance.
Mais merci Pierre Servanton.
Merci beaucoup Odile pour ton invitation.
De rien, c'est toujours un plaisir. Et donc on retrouvera cette émission sur notre site www.fréquencemistral.com. Bonne journée et à bientôt.
Merci beaucoup Odile. Bonne journée à tous. Au revoir.